l'autre côté de la musique, une autre manière d'aborder la musique classique. Émission proposée et présentée par Michel Giardella, avec aujourd'hui...
Tonight's soloists are Yo-Yo Ma and Robert McFerrin performing the Musette by Johann Sebastian Bach. Please, yes. Can we get on with it? Thank you. Play it then, would you? Give me my note. Thank you. I appreciate that. 1, 2, 3. Excuse me now. Wrong number. Thank you. I got carried away.
Bonjour Michel.
Bonjour, petite surprise.
Alors, une œuvre bien curieuse à la croisée de multiples influences pour aborder une nouvelle thématique aujourd'hui.
Oui, on va aborder un peu Jean-Sébastien Bach à travers tous les temps. Hein. Il a été toujours copié, surtout copié avec les jazzmen du XXe siècle. C'était une passion que les musiciens de jazz ont découvert. Alors là, nous avons entendu, c'était extrait du petit livre d'Anna Magdalena Bach, la deuxième femme de Bach. Et ça, Bach avait écrit une œuvre, à peu près, il y a beaucoup de chants, et on a entendu une œuvre chantée de ce petit livre, dans une version de Bach Ferrine, qui est un peu amusante quand même, pour connaître. Hein. Ça met de bonne humeur. Hein.
Oui, complètement. Voilà. Alors on va tenter de comprendre en votre compagnie. Comment le plus emblématique des compositeurs baroques s'est imposé comme une référence pour les musiciens de jazz?
Voilà. Alors je crois que ça a commencé dans les années 67. J'ai pas retrouvé le disque parce que chez moi c'est pas toujours bien classé. Et ce disque, c'est un pianiste s'appelait Jacques Loussier. Jacques Loussier, dans les années 60, c'était au piano, jouait Bach, et puis il a joué Bach en trio avec une batterie, une contrebasse et lui au piano. Donc c'est l'un des premiers innovateurs à jouer Bach. Mais Bach, par ses rythmes, a toujours attiré les musiciens. Hein. Alors, pour certains, Bach a un côté un peu mécanique comme une locomotive qui tourne. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Prokofiev lui-même aussi se servira de ces systèmes mécaniques. Mais Bach a débordé sur beaucoup de musiciens. Voilà, moi je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec ce qui a fait la gloire de la musique de Bach en jazz, c'est les Swingle Singers. On en parlera peut-être un peu après. Hein.
Influences de Jean-Sébastien Bach avec les Swing Single Singer, Michel Giardellin.
Voilà, oui. Alors, ce que nous avons entendu, c'est un choral Schubert que Bach a écrit pour orgue. Et il a été un peu transposé, mais c'est inspiré aussi, je crois, d'un extrait de la cantate 66 de Bach, le choral de la cantate 66. Enfin, bon, en tout cas, c'est quand même du Bach.
Oui, on
a. Voilà, alors, oui, on peut dire un petit mot sur les Swingle Singer. Hein. C'est un groupe vocal qui a été fondé en 60, à la fin des années 60. Ils avaient fait partie d'une chorale, ça s'appelait les Double Six au début. Le chanteur ténor et arrangeur américain vivait en France et il s'appelait Ward Zwingel. Donc c'est lui qui a fondé le groupe et il s'est entouré de 7 chanteurs. Alors il y avait des choristes français habitués des studios d'enregistrement parisiens, les Claude Germain ténor, Christiane Legrand, sœur du compositeur Michel Legrand, première soprano du groupe Jeannette Beaucomont, soprano, Claudine Moni alto, Anne Germaine alto, Jean Cussa basse et Jean-Claude Briodin basse. En plus de ces 8 chanteurs, s'ajoutait toujours un contrebassiste et un batteur. Voilà ce qu'étaient les Swingle Singers. Hein. Ils ont bien sûr obtenu un succès colossal. Et ils ont obtenu 4 Grammy Awards, qui est la grande récompense américaine. Et 3 nominations au Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros, qui en France est une référence pour la distribution des prix. Ils ont donné des concerts à la Maison Blanche. Aux États-Unis pour la campagne présidentielle de Lyndon Johnson. Ils ont donné des concerts à Carnegie Hall et le disque là a été enregistré Place Vendôme. Ils ont chanté avec des compositeurs contemporains, Luciano Berio, avec Bernstein et avec d'autres compositeurs en tournée internationale au Japon, avec Ernest Bourg, mais ils ont continué leurs concerts au Brésil et en Argentine. Bon. Mais Bach a toujours été un moment préféré. Alors les Swingle Singers, là nous avons le premier groupe, après ils ont évolué, les chanteurs ont été anglais, et puis après américains, donc le groupe existe toujours. Hein, mais il n'y a plus les interprètes du départ originel. Voilà. Alors, petit moment encore.
Profitons-en encore.
Voilà. Allez. Je vous propose de la suite numéro 2 pour flûte et orchestre de Jean-Sébastien Bach, une bourrée. La bourrée qui est la deuxième partie de cette suite de Bach pour flûte et orchestre.
D'inventivité pour ce reflet de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach par les Swing Single Singer. Nous poursuivons la galaxie, si je puis dire, Michel, de ce célèbre compositeur avec d'autres influences plus canadiennes, semblerait-il.
Voilà, alors il y a eu la création d'un orchestre que de cuivre, ils étaient 7 je crois, et ils se sont régalés dans la musique baroque, et ils ont donné quelques interprétations de Jean-Sébastien Bach qui ont été un succès extraordinaire. Écoutons, on en parlera un petit peu plus après. Thank you.
Canadian Brass, une autre manière d'aborder la musique de Jean-Sébastien Bach, peut-être moins originale que les Swing Single Singer, mais ceci dit, quand même avec un esprit novateur. Hein,
voilà, oui. Et c'est un quintet de cuivre, bien sûr, créé par Charles Dellenbach et Gene Watts en 70. Il y a deux trompettes, bien sûr, qui jouent, un corniste, un tromboniste, un tubiste. Et le groupe s'est produit dans le monde entier et bien sûr a connu un triomphe. Il est considéré quand même comme le meilleur ensemble de cuivre du monde actuellement.
Ah oui.
Et oui, ils sont quand même des virtuoses. Ils sont toujours vêtus d'un complet assorti de chaussures de sport blanches. Les musiciens attendent à leur performance instrumentale un jeu de scène toujours chorégraphique et humoristique. Ils se donnent aussi en spectacle.
C'est le côté aussi un peu mise en scène qui donne de la couleur.
Voilà. Alors, ce qu'ils nous ont joué, c'est un extrait de la cantate 68 de Jean-Sébastien Bach. Voilà, nous retournons à notre ami Yo-Yo Ma et Mac Ferrin qui vont nous jouer encore un petit morceau très célèbre, extrait de la troisième suite de Jean-Sébastien Bach. Alors là, on va faire pleurer un peu les grands-mères, mais écoutons.
Oui. Thank you. œuvre très émouvante qui donne un reflet encore assez distinct de ce que nous avons pu entendre précédemment, de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Ça n'a pas été facile pour les compositeurs qui ont commencé à reprendre, notamment en jazz, l'œuvre de Jean-Sébastien Bach par la critique, même s'il y a eu un succès assez escompté du public. Oui. Ça n'a pas été une chose simple,
la critique,
Michel.
Il n'y était pas tout favorable. Non. Bon, et puis il y a comme toujours dans la musique classique des gens guindés qui, ça y est, on assassine Bach. Bach y a gagné, j'en suis sûr. Mais bon, c'est toujours difficile. Moi, je trouve que il y avait énormément de liberté dans cette interprétation et c'est formidable. Bon, on prend du plaisir, hein. Alors, je voulais dire quand même que l'œuvre que nous avons entendue, cette partie, c'est une suite de Bach. Il n'y a pas de voix du tout, hein. C'est un orchestre de cordes, accompagné par clavecin et violoncelle qui font la basse continue, hein. Voilà, donc c'est amusant d'entendre chanter quelque chose qui n'était pas chanté.
Oui, d'où l'originalité que certainement aurait aimé un peu ce compositeur
voilà.
Du baroque.
Voilà. Eh bien, on va l'entendre. Là maintenant, un petit peu dans un côté très virtuose. Alors, c'est un extrait du troisième concerto brandebourgeois. La seule chose que je peux vous dire, c'est attention, attachez vos ceintures. C'est parti!
Thank you.
un des maîtres mots qu'on pourrait mettre aux côtés, rattaché à ce compositeur Jean-Sébastien Bach, c'est aussi la dextérité. Dextérité, puis aussi, Michel, peut-être musique improvisée, une musique d'intuition qui a enchanté, certes, mais aussi qui a donné beaucoup d'inspiration aux jeunes générations de jazz, enfin plus ou moins jeunes. Pourquoi cette musique d'intuition peut donner, comme ça, chez Jean-Sébastien Bach, des ailes ?
D'abord, je crois que quand Bach se mettait au clavecin, il improvisait beaucoup. Et puis après, il écrivait la musique, puisque Bach était quand même un pro, mais j'aurais dit presque un artisan de la musique. Il a passé sa vie à enseigner, il a passé sa vie à jouer des cantates dans les églises, et il a toujours essayé de monter dans la hiérarchie des musiciens. Mais c'était très difficile à cette époque-là. Le système féodal de l'époque, on était payé au concert qu'on donnait, à la qualité de la musique. Les princes et les seigneurs, comment dirais-je, étaient exigeants. Mmh. Exigeants, et regardaient pas à la peine du musicien. Donc Bach a toujours écrit avec la basse continue, c'est-à-dire un clavecin et un violoncelle qui accompagne tous les morceaux. Il faudra attendre Haydn pour s'échapper de la basse continue. Et cette basse continue, pour les musiciens de jazz, ça sera non plus le clavecin, mais la batterie et la violoncelle remplacée par la contrebasse. Cela ponctuera la musique de jazz. On voit un peu ce transfert qu'il y a eu.
Et qui donne une certaine assise
qui pose la musique et qui donne le rythme, ouais. Ce rythme propre au jazz, ce rythme un peu syncopé.
Et ternaire.
Voilà.
Entendu pour, effectivement, des musiciens comme vous l'évoquez, Jacques Loussier ou encore Keith Jarrett, en passant par aussi Édouard Ferlet, qui ont été très sensibles.
Oui, le Modern Jazz Quartet aussi, c'est bien inspiré de Bach.
On va poursuivre avec des œuvres plus contemporaines de Jean-Sébastien Bach et on va revenir sur une des formations que nous avons pu entendre en début de magazine.
Voilà le Canadian Brass qui joue la petite fugue de Jean-Sébastien Bach. Une petite fugue.
Le Canadian Brass, toujours autour de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach.
Voilà, et bien je te propose, puisqu'on est revenu au Canadian Brass, de retourner au Swingolfinger. Je vous propose ce petit morceau des Swingolfinger, qui est tout simplement une fugue, la fugue en D mineur, chanté par les Swingolfinger, toujours accompagné du violoncelle, d'un violoncelle et d'un clavecin.
Ils étaient même un peu, si je puis dire, des mineurs aussi.
Des mineurs aussi, tout à fait.
l'instant les Swingle Singers, de l'autre côté de la musique continue, autour de Jean-Sébastien Bach, et puis ensuite tout ce qui a pu faire une autre trame imaginative de son œuvre, par notamment des jazzmen et autres musiciens qui sont emparés de toutes ses œuvres, Michel.
Voilà, oui. Alors pour continuer dans ce que nous avions commencé avec Bob Mumfiri, on peut dire un petit mot. Robert Bob Mumfiri est né en 1950, c'est un chanteur, vocaliste et chef d'orchestre américain. Ses parents étaient tous deux des chanteurs d'opéra. Plus jeune, il se met à la clarinette puis au piano, mais c'est seulement en 77 qu'il presse plus d'attention à sa voix. Bobby débute alors une carrière d'artiste vocal, spécialisé dans les compositions ou arrangements a cappella de genres très différents, comme le jazz, le rock, la pop, la funk, la world music ou le classique. Dans les années 80, il affirme son style en se produisant sur scène à travers des performances atypiques, remportant son premier Grammy Award pour le titre « A Night in Tunis ». En 1988, « Don't Worry Be Happy » devient un tube planétaire et font de lui un artiste pop incontournable. Voilà, alors il est accompagné ici par Yo-Yo Ma, qui est un violoncelliste japonais, un des plus grands violoncellistes actuels. Mmh. Et ils ont fait équipe, ils se sont certainement bien amusés. Amusons-nous aussi, écoutons ce morceau avec
Bobby McFerrin. Voilà. Et de véritables prouesses vocales et musicales en perspective. Yo-Yo Ma et Bobby McFerrin avec un touchant
voilà,
titre.
Oui, c'est l'aria, l'Ave Maria de Bach que Gounod avait pris dans l'œuvre de Bach, qui ici est chantée, on peut dire.
Chantée par aussi le violoncelle, dans voilà, la même tessiture qui donne une sorte d'écho à la voix aussi.
Voilà,
un entrelacement entre la voix et l'instrument de Yo-Yo Ma. On va poursuivre et terminer avec Jean-Sébastien Bach, le vrai.
Le vrai.
Michel Jardin.
Le vrai, enfin, bon, ça c'est pour pas fâcher les puristes, oui. Hein, parce que il faut quand même
rendre à César,
qui est à là parce que finalement on avait un peu décroché le bac, hein, c'est le cas de le dire, du mur. Hein. Oui. Là maintenant on va le remettre au pinacle. Alors tout simplement deux petits extraits à la fois d'orchestre et d'orgue, de chorale qu'il avait écrit lorsqu'il était à Leipzig.
Bien, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là sur Jean-Sébastien Bach. On disait un petit peu hors antenne, il y a quelques instants, que effectivement, ce compositeur baroque a été un véritable forçat de la composition.
Oui. C'était, il ne s'arrêtait jamais. D'abord, il n'avait pas le choix. Il avait une très nombreuse famille.
Toute une dynastie.
On en reparlera peut-être pour un jour, on fera peut-être une émission sur les enfants de Bach.
Voilà.
Ils ont eu tous des carrières extraordinaires. Ouais. Il y en a même un qui a trahi la famille.
Carl Emmanuel.
Non, c'est Jean-Christian. Il est devenu catholique et Bach, qui a passé sa vie à mettre en musique les psaumes de Luther, ça a terrassé la famille. Ils ont été terrassés par le traître. Dans la famille, il y en a toujours un qui doit trahir. Hein. C'est bien, c'est comme ça. Hein. Bon, mais bon, c'était ses enfants. Et on lit dans il y a un de ses fiches qui raconte que il était au clavecin et son père le faisait répéter. Et des fois, il avait l'impression que son père s'était endormi. Et alors, il laissait un peu aller. Il faisait des fausses notes. Mais Bach, avec la règle, paf, un coup sur les doigts. Ouais, ça ne devait pas être de tout repos quand même.
quelque chose de très rigoureux dans tout cela, avec bien sûr l'emploi du temps de Jean-Sébastien Bach qui chaque dimanche en fait mettait en fait en scène une nouvelle œuvre.
On peut dire
globalement, ça a été un petit peu ce fil conducteur toute sa vie.
Toute sa vie, c'est surtout à Leipzig, il s'est jamais arrêté. Ouais. Et de temps en temps, il s'enfuyait parce qu'il se faisait inviter par un prince électeur, puisque l'Allemagne c'était des provinces, hein, c'était pas encore, elle n'était pas réunie. Il se faisait inviter par le prince électeur et les autorités de Leipzig osaient pas refuser que le prince électeur invite Bach à venir et ils étaient obligés d'accepter. Pour Bach, c'était un moment de repos, c'est là qu'il écrivait ses œuvres différentes, hein, à ces moments-là. Mais c'est vrai que il a quand même galéré, hein.
Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons refermer cette émission de l'autre côté de la musique. Une prochaine thématique, le mois prochain, avec toujours eh bien, des thèmes toujours qui donnent des sens à la musique classique et aux compositeurs, un univers infini. Merci beaucoup, Michel Giardella. À très bientôt.
Au revoir.